Bonjour, maître Édouard Bourgin. Vous
Bonjour.
êtes l'un des avocats de ces proches de policiers. Vos clients confrontés à cette situation forcément dérangeante, en plus de l'horreur du drame, eh bien, la perspective qu'il n'y ait pas de procès, c'est le drame après le drame.
Oui, exactement. Je pense qu'en philosophie, autant qu'en droit, le principe de responsabilité est fondamental. Dans ce dossier, l'État a failli à sa mission de nous protéger et on s'aperçoit assez clairement que les policiers n'ont pas appliqué la loi, des lois qui sont censées nous protéger contre le terrorisme et la radicalisation.
Pourquoi l'État visait plutôt que les personnes au poste de responsabilité? C'est une faute collective?
Mais c'est une faute à la fois, c'est très intéressant ce que vous dites, il y a des nombreuses fautes personnelles d'agents. Nous avons identifié des fautes personnelles graves, dont certaines pourraient revertir quasiment des infractions, des fautes administratives majeures et quasiment des infractions. On s'interroge même, avec mon confrère avocat, de qualifier pénalement une inaction coupable de certains collègues policiers de M. Harpon. Si on creuse un petit peu de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit qu'en 2019, on est dans un contexte d'attentat, on est dans un contexte où tout le corpus juridique existe. L'article 40 impose à tout policier qui constate un délit de le signaler. Eh bien, figurez-vous qu'entre 2015 et 2019, nous avons recensé une quinzaine d'événements particulièrement préoccupants qui se sont déroulés sous les yeux de policiers. Sous les yeux de policiers spécialisés dans la radicalité, dans le terrorisme, dans le renseignement, nous avons identifié notamment, non pas des signaux faibles, ça c'est un terme que nous ne pouvons plus entendre quand on parle de l'affaire Michael Harpon, mais des signaux forts. Quand un agent administratif dans un service de police profère à de nombreuses reprises des propos qui relèvent d'un délit pénal, l'apologie du terrorisme, c'est un délit pénal. On est dans le signal fort, on n'est plus dans le signal faible. Eh bien, ces propos d'apologie du terrorisme vont survenir en 2015, le fameux c'est bien fait du Charlie Hebdo, en 2018, hein, on a une justification des exactions faites par Daesh. Eh bien, ces délits, au sens pénal du terme, qui touchent la sécurité des personnes, ces propos vont être proférés devant des policiers chargés de la radicalité, devant trois services distincts dont tous sont spécialisés. Et ce que nous pensons, au fur et à mesure de notre étude de ce dossier, c'est que l'État a failli. Pourquoi? Parce qu'il a désarmé nos policiers. Ces policiers étaient désarmés, leurs armes n'étaient pas à leur ceinture. Les armes de ces policiers étaient dans des armoires scellées. Donc ça, c'est un désarmement matériel. Et le pire qui nous frappe tous et qui frappe l'État français, et là où l'État français a failli le plus gravement, c'est un désarmement intellectuel. Qu'a-t-il fallu dans notre pays pour que des policiers ne dénoncent pas des délits qui touchent au terrorisme islamiste qui se déroulent sous leurs yeux? C'est là où nous posons les questions les plus graves à l'État. Je pense qu'un climat de terreur s'est
Qu'est-ce
installé
que vous
qui a
entendez
empêché.
par là? Il y a une forme d'autocensure de la part des employés de la préfecture de police à l'époque des faits?
Moi, nous, avocats, nous ne pensons rien. Nous ne faisons que retranscrire ce que le dossier pénal dit. Le supérieur hiérarchique de Michael Harpon a dit la chose suivante qui est terrible pour nous tous. J'avais en face de moi un représentant de trois minorités, couleur de peau, handicap, religion, et ce supérieur hiérarchique, dont les fautes sont graves, potentiellement pénales, dit la chose suivante: avec les lois de la République, on ne pouvait rien faire. Donc nous avons un responsable hiérarchique qui avait le pouvoir, qui avait la compétence pour opérer un signalement et ne l'a pas fait parce que en terreur d'une discrimination
Par
ou d'une
crainte d'être
stigmatisation.
accusé de discrimination. David DiGiacomo.
Alors là, vous nous exposez un petit peu tout ce que vous expliquez, comment vous allez le traduire en termes de procédure. Vous avez déjà produit un mémoire au ministère de l'Intérieur. Quelle va être la suite?
Nous avons effectivement écrit au ministre de l'Intérieur pour lister les 15 ou 16 événements préoccupants qui méritaient tous un signalement, et nous demandons très clairement au ministre de l'Intérieur de reconnaître la responsabilité de l'État. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, en philosophie comme en droit, il n'y a pas de pouvoir qui ne connaisse de sanctions. Et je crois que dans cette affaire, comment expliquer autrement que par des fautes graves qu'un attentat islamiste ait pu frapper un des principaux services de renseignement spécialisés dans la radicalisation, Je crois que l'État doit répondre de ses fautes pour que l'État français se redresse.
Et selon la réponse, qu'est-ce que vous envisagez ? Il y aura une réponse du ministère de l'Intérieur et ensuite ?
Alors, ça, c'est de la procédure. En cas de non-réponse, nous pouvons saisir le tribunal administratif. Et en cas de réponse positive, nous tenterons de négocier avec l'État, effectivement.
Vous accompagnez la veuve d'une des quatre victimes de ce drame. Pas de volonté des familles des trois autres victimes d'accompagner cette démarche ?
À ce jour, nous ne sommes pas en connaissance d'une velléité d'action d'autres familles, mais nous sommes effectivement dans l'attente d'une réaction de celle-là.
Merci, Maître Édouard Bourgin, l'un des avocats de la veuve de cette victime de la préfecture de police de Paris, avec des poursuites envisagées donc envers l'État près de 5 ans après ce drame.